Très 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 précisément 18h sur France Culture en direct, le journal Mathieu Laurent.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, chaos politique au Pérou. Le président Manuel Merino, qui vient d'accéder au pouvoir, est contesté de toutes parts, correspondance de Lima. L'extension du conflit dans la province éthiopienne du Tigré, l'Érythrée voisine aurait été bombardée par l'armée régionale. Élément de contexte avec à Addis Abeba Noé Hochebodin. La visite à Chypre Nord du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et en France, les racines de la pauvreté. Le pays compte 300 000 personnes sans domicile fixe selon la Fondation Abbé Pierre. Réunion extraordinaire ce dimanche des parlementaires péruviens pour débattre du sort à réserver au président Manuel Merino, en grande difficulté depuis la destitution de son prédécesseur président, Martin Vizcarra, qui jouit d'une grande popularité. Après 3 jours de manifestations sévèrement réprimées, Manuel Merino, lâché par 18 de ses ministres et par l'épiscopat, est bien seul. Et le pays, Éric Sanson, traverse une lourde crise.
C'est un véritable raz-de-marée de démission qui a touché le gouvernement péruvien, qui n'est pourtant en place que depuis le 10 novembre. Dans la nuit de samedi à dimanche, 13 ministres sur 18 ont annoncé leur démission, dont ceux de l'économie et des finances, intérieur, défense, santé, énergie et mines, justice, éducation, bref, tous les poids lourds du gouvernement. Équivalent de notre premier ministre, le président du Conseil des ministres, Antero Flores, annonçait quant à lui que son sort est lié à celui du président transitoire, Manuel Merino. Ce dernier est sous une pression croissante. Luis Valdés, qui l'a remplacé à la tête du Congrès, a demandé samedi sa démission. Valdés a annoncé une réunion dimanche matin des chefs de parti pour évaluer la destitution du président transitoire. Pour lui, la population péruvienne s'est déjà prononcée contre le maintien du régime actuel. Manuel Merino a également été lâché par les principaux dirigeants de son parti Action Populaire. « Mettez fin à votre aventure, hashtag démissionnez maintenant », a précisé dans un tweet le secrétaire général du parti, qui est soutenu par le maire de Lima et le pré-candidat présidentiel d'Action Populaire. Sentant le vent tourner, la plupart des partis ayant voté lundi dernier la destitution de l'ancien président Martin Vizcarra demandent maintenant celle de celui qui l'a remplacé. Un revirement qui ne va pas améliorer l'image d'un congrès profondément rejeté par la population, ni faire baisser l'intensité de la crise politique d'ici les élections générales prévues normalement en avril prochain.
Stabilité en vue au Brésil en ce dimanche d'élections municipales atypiques en raison de la pandémie de coronavirus qui pourrait limiter la participation. Ce scrutin devrait confirmer le net virage à droite entamé avec l'élection il y a 2 ans du président Jair Bolsonaro et ainsi renforcé les partis traditionnels. De sources diplomatiques basées à Addis Abeba, des roquettes tirées de la province du Tigré auraient atteint la capitale érythréenne Asmara. L'offensive lancée par Addis Abeba il y a 12 jours déclenche des affrontements qui dépassent les frontières du Tigré. Hier, bombardement d'aéroports en terre Amara et aujourd'hui frappe sur Asmara. Asmara accusée à plusieurs reprises par le Front de libération des peuples du Tigré de prendre part au conflit. C'est une correspondance d'Addis Abeba de Noé Hochebodin.
Plusieurs fois cette semaine, le parti TPLF a assuré que l'Érythrée s'était militairement engagée dans la guerre au Tigré, d'abord par des tirs d'artillerie, puis des incursions dans les villes frontalières. Une information confirmée par une source sur place, mais démentie par le gouvernement érythréen. Alors l'implication de l'Érythrée dans les combats est encore incertaine aujourd'hui, mais l'hostilité entre les deux voisins ne fait aucun doute. Anciens frères d'armes, dans les années 1990, les leaders érythréens et tigréens, entre-temps devenus maîtres de l'Éthiopie, se sont progressivement éloignés jusqu'à devenir meilleurs ennemis, ce qui déboucha sur une guerre frontalière de 1998 à l'an 2000. L'attitude du président érythréen Isaias Afwerki envers l'Éthiopie a changé il y a seulement 2 ans, après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, membre de l'ethnie Oromo. Un accord historique sera signé entre les deux pays qui vaudra un prix Nobel de la paix au premier ministre éthiopien. À l'époque déjà, certains observateurs affirment que le principal objectif de cet accord de paix serait en fait une alliance contre le TPLF. Depuis, Abiy Ahmed et Isaias Afwerki affichent une grande complicité, ne serait-ce que le mois dernier, en tenant une visite d'État de 3 jours à Addis Abeba, où ils ont notamment visité une usine d'armement près de la capitale. Une trahison, avait alors déclaré le TPLF. Cette proximité s'est déjà traduite sur le terrain depuis 2 semaines. Par exemple, lorsque le gouvernement éthiopien a confirmé que certains de ses soldats s'étaient retirés en territoire érythréen avant de contre-attaquer, sans préciser toutefois s'ils avaient reçu de soutien logistique de l'autre côté de la frontière.
En visite ce dimanche, dimanche dans la partie nord de Chypre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à des pourparlers sur la base de deux États séparés sur cette île de la Méditerranée divisée depuis 46 ans. Le chef de l'État turc devait notamment assister à une parade militaire et participer à un pique-nique à Varosha, une ancienne cité balnéaire bouclée par l'armée turque lors de son invasion de l'île en 1974. La venue de Tayyip Erdogan avait été qualifiée par le président chypriote grec Nikos Anastasiadas de provocation sans précédent. À Istanbul, les précisions d'Anne Handlauer.
Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Chypre Nord pour répéter haut et fort ce qui est désormais la position officielle de la Turquie. Une réunification de Chypre, qui permettrait aux chypriotes grecs et turcs de partager un même État, n'est plus une option. Son hôte Ersin Tatar, le président fraîchement élu de cette république turque autoproclamée, plaide également pour une solution à deux États séparés. Protégé d'Ankara, il réclame le maintien du pouvoir garant de la Turquie et des quelques 30 000 soldats turcs toujours présents sur l'île. C'est notamment sur cette question, la présence de troupes turques à Chypre, que les derniers pourparlers de paix sous l'égide des Nations Unies avaient échoué en 2017. Mais une solution à deux États ne ferait qu'accroître la dépendance politique et économique de Chypre Nord vis-à-vis d'Ankara. Certains en Turquie réclament même ouvertement une annexion du nord de l'île. Cette visite de Recep Tayyip Erdogan est donc aussi une façon de défier l'Union européenne et la République de Chypre, la partie grecque, État membre depuis 2004, à un moment où la Turquie déploie ses ambitions en Méditerranée orientale. Le président turc s'est d'ailleurs montré inflexible sur les recherches d'hydrocarbures que son pays mène dans ses eaux, au cœur de vives tensions avec la Grèce, Chypre et l'Europe. Il a promis de poursuivre ses activités avec détermination, je cite, « tant qu'un accord juste n'aura pas été trouvé ».
En France, à Bordeaux, Nice, Tours ou encore Paris, liste non exhaustive, rassemblement de fidèles catholiques pour demander le retour de la messe, une communauté qui aura reçu ce dimanche le soutien de nombreuses personnalités de droite, parmi lesquelles Gérard Larcher qui demande l'ouverture des églises, dans le respect, ajoute le président du Sénat, des conditions sanitaires. L'épidémie qui fragilise les plus vulnérables, qu'ils viennent des pays en guerre ou bien de nos agglomérations comme de nos campagnes, et les relevés de la Fondation Abbé Pierre donnent la mesure des conséquences de la crise économique conjuguée aux effets de la pandémie. La Fondation Abbé Pierre avance qu'il y a 300 000 sans domicile fixe, soit deux fois plus qu'en 2012. Comment en est-on arrivé là? Question posée par Sarah Ders à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Il y a à la fois l'insuffisance de réponse en matière de logement social ou de logement privé à vocation sociale, c'est-à-dire de personnes qui ne trouvent pas de solution adaptée à leur niveau de ressources. Donc on n'a pas suffisamment construit de logements sociaux, on n'a pas suffisamment augmenté les APL, elles ont même plutôt baissé d'ailleurs depuis deux ans et demi, les aides à la construction de logements sociaux, les APL. Il y a eu beaucoup d'expulsions locatives parce qu'on n'arrive pas à enrayer ce processus d'impayés qui peut conduire jusqu'aux expulsions locatives. Il y a eu aussi des questions liées aux migrations de personnes étrangères et à qui on n'a pas pu proposer de centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Une fragilité croissante avec le chômage de masse. Donc il y a vraiment la nécessité d'un électrochoc, une implication de tous, les associations, les collectivités locales et l'État.
Le propriétaire du pavillon et l'organisateur de la soirée clandestine dans le Val-de-Marne qui a réuni dans la nuit de vendredi à samedi entre 300 et 400 personnes ainsi qu'une troisième personne ont été placés en garde à vue. Il est 18h08, vous écoutez le journal de France Culture. Joe Biden a gagné uniquement aux yeux des médias à fake news. C'est Donald Trump qui, dans un tweet, ne dit surtout pas qu'il a perdu. Le président sortant qui a, et là c'est une certitude, retiré les États-Unis l'année dernière du traité transpacifique. Eh bien ce dimanche, la Chine est 14 autres pays de l'Asie du Sud, du Sud-Est et du Pacifique ont signé un accord commercial qui leur ouvre la plus importante zone de libre-échange au monde. Shanghai, Simon Leplâtre.
C'est une victoire pour la mondialisation. Le partenariat régional économique global crée une vaste zone de libre-échange en Asie en réduisant les taxes à l'import sur la plupart des produits manufacturés et en harmonisant des règlements pour faciliter la vie des entreprises de la région. Le partenariat rassemble les 10 pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Effectivement, la Chine est la plus grande gagnante de cet accord, et ce pour trois raisons. D'abord parce que la Chine est soumise à des droits de douane très importants des États-Unis qui ont poussé certaines entreprises à se relocaliser vers d'autres pays d'Asie. Dans ce contexte, développer des échanges avec ses voisins asiatiques est une bonne chose pour la Chine. Ensuite, parce qu'il y a 2 ans, les États-Unis se sont retirés d'un projet similaire, le TPP, sous l'impulsion d'un Donald Trump protectionniste. La Chine, rivale des États-Unis, ne faisait évidemment pas partie de cet accord. Ici, elle reprend la main. Et enfin, parce que ce genre d'accords commerciaux ont tendance à bénéficier aux plus puissants acteurs régionaux. Ici, c'est le Japon et surtout la Chine, plus grande économie d'Asie et premier exportateur mondial.
Quelques mots de la météo de demain lundi pour la France métropolitaine. La journée débutera sous un temps le plus souvent très nuageux et puis amélioration progressive. Les températures seront en baisse. Demain matin, prévoyez 7 à 11 degrés dans les terres, 11 à 14 degrés en bord de mer. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, Alex Dang. Et c'est